Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
BFM Bourse, le club de la bourse.
Et dans le secteur automobile, une star, elle est à Wall Street aujourd'hui, c'est General Motors. On verra Tesla ce soir après la clôture, la publication. Mais en attendant, General Motors annonce des résultats supérieurs aux attentes. General Motors relève ses prévisions. Le titre General Motors à Wall Street en direct, il y est 11h06 à New York, gagne 4%. On en parlait de cette publication de GM avec John Plassard à 15h30. Si vous avez raté le direct, le replay, bien sûr, est disponible. Il est en ligne sur notre application BFM Business. N'hésitez pas à consulter ce replay. Quel potentiel donc sur les marchés? On pose cette question à nos experts, nos clubbeurs. Ils mettent en musique les tendances de marché. Marie Delessac, bonsoir Marie, bienvenue. Bonsoir. Gérante Edmond Rothschild Asset Management, on est ravis de vous accueillir. Alain Dubrulle également nous accompagne. Bonsoir Alain.
Bonsoir Guillaume.
Et bienvenue également, directeur général délégué de Claresco. On va parler de Kering et Tesla dans un instant, qui vont publier dans quelques minutes leurs résultats, Kering, et dans quelques heures Tesla. D'abord le potentiel. Enfin, depuis le début de la semaine, depuis hier, on sent le marché vouloir repartir un peu de l'avant, retrouver un chemin davantage haussier. Alors c'est vrai que le risque géopolitique avait fait trembler le marché la semaine dernière, c'est un peu moins le cas en ce début de semaine. D'ailleurs l'once d'or recule. Qu'est-ce qu'on se dit de la façon qu'a le marché de réagir à cet environnement? Le marché fait plutôt preuve de maturité et donc monte dans un sain scepticisme en ce début de semaine, où vous estimez qu'on est peut-être encore un peu en lévitation et que le marché est dans le déni vis-à-vis des risques qui l'environnent. Alain?
Ce que je serais tenté de dire, c'est que quelque part, on a eu un petit peu deux phases dans les 3-4 dernières semaines. Une première qui était très tendue par la géopolitique, notamment au Moyen-Orient. Et puis, précédemment, une phase pendant laquelle le marché a fini par comprendre que, notamment aux États-Unis, l'activité restait très résistante et que donc les premières baisses de taux aux États-Unis seraient plutôt probablement à l'automne qu'au mois de juin. Et donc ces deux facteurs étaient a priori des facteurs négatifs, une baisse des taux retardée aux États-Unis, des tensions géopolitiques avec une hausse des prix du pétrole. Ça a provoqué globalement des marchés qui ont plutôt bien tenu, faut être honnête. Oui. Mais la semaine dernière notamment, un petit sell-off sur la tech, puisque les valeurs de technologie aux États-Unis ont baissé de 5%. Et si on prend les valeurs de semi-conducteurs, on était plutôt à moins 10. Et rappelez-vous, vendredi dernier, Nvidia à moins 10 et une petite star, Supermicrocomputer à moins 20. Ça commençait un petit peu à alerter. Depuis le début de la semaine, on voit que bon, ça se calme sur la géopolitique. Du côté des taux, ça se stabilise. Et donc, c'est maintenant la phase de... On a énormément de publications de résultats au cours des deux semaines à venir qui vont, je pense, plutôt donner une note positive, puisque, je dirais, pour l'instant, les résultats sont plutôt corrects. Et je pense que ceux qui vont venir vont montrer que, aux États-Unis, ils sont bons, tout simplement parce que l'économie ne ralentit presque pas. Et en Europe, à de rares exceptions près, on va dire que les entreprises sont plutôt bien gérées, résistent pas trop mal. Et d'un point de vue macro, je dirais, en Europe, on est bien moins dynamique qu'aux États-Unis, ça c'est certain, mais on est aussi dans une sorte de plateau, et les indicateurs montrent que même si c'est pas le boom, ça pourrait commencer à s'améliorer un tout petit peu. Alors, si on rajoute à ça la baisse des taux qui, en Europe, moi, me paraît vraiment acquise pour le mois de juin, avec peut-être même d'autres baisses déjà quasiment annoncées par François Villeroy de Gallo hier dans une interview dans Les Échos, on peut penser raisonnablement que du côté de l'Europe, la baisse des taux d'une part, et petit, un léger rebond devrait suffire en tout cas pour alimenter une performance correcte des marchés.
On a le sentiment qu'une forme de scénario parfait se met peut-être en place désormais aussi pour l'Europe, effectivement. Les PMI qui réaccélèrent un peu à plus de 51, supérieurs aux attentes, notamment dans les services, ils ont été publiés tout à l'heure, sans pour autant nous entraîner dans une phase de surchauffe. Ça devrait entraîner sans doute un regain de croissance, plutôt bon pour l'activité, mais qui pourrait ne pas dissuader la BCE de baisser ses taux. Donc on aurait à la fois le retour de la croissance et des baisses de taux, une politique plus accommodante. Est-ce que c'est votre scénario pour la suite en Europe, Marie?
Effectivement, je pense qu'en Europe, on est quand même loin d'une phase de surchauffe, malgré ces chiffres de PMI qui sont un peu meilleurs. Et si on doit relativiser un petit peu, on a des PMI qui sont en composite au-dessus de 50, les services très bons, mais on a quand même des déceptions sur tout le côté manufacturier. Donc ça laisse planer un petit doute sur la soutenabilité de cette petite reprise, parce que c'est effectivement plutôt une stabilisation qu'une vraie reprise. Et je pense que ça doit probablement conforter la BCE dans son mouvement de baisse des taux prochains. C'est pas du coup ces chiffres-là qui vont lui faire changer d'avis. Hein. Mais c'est des bonnes nouvelles d'avoir ces chiffres de PMI qui se stabilisent, qui repassent au-dessus du niveau de 50 en composite. Le secteur des services, ça représente quand même environ 2/3 de l'activité économique. Donc, c'est aussi ça qui pourra peut-être, et c'est des déclarations qui ont eu lieu ce matin sur des dirigeants espagnols, des dirigeants allemands, pardon, qui pourront probablement être un peu un catalyste pour l'économie globale et essayer de tirer un peu toute l'économie européenne.
Et est-ce que vous vous dites que là, l'Europe, en termes de performance, a une vraie carte à jouer s'il y a un petit retour de la croissance, des premières baisses de taux, avant les baisses de taux de la Fed d'ailleurs, voilà. Est-ce que vous vous dites qu'il y a une fenêtre de tir pour peut-être un peu de surperformance européenne face à Wall Street?
On a vu la surperformance des actions européennes débuter même dans cette phase de baisse, hein, puisque sur la phase de baisse qu'on a connue ces 10 derniers jours, les actions américaines ont plus baissé que les actions européennes. On était à moins 5%, un peu plus sur le S&P 500, un peu plus sur le Nasdaq, alors que sur l'Europe, on a perdu peut-être 3%. Donc, il y a déjà une surperformance qui se met en place. À moyen terme, effectivement, c'est une zone géographique qui peut tirer son épingle du jeu, d'autant plus que...
La zone euro. Je reste pas, euro, vous parlez bien de la zone euro.
La zone euro, oui.
Vous tous qui nous écoutez, vous entendez bien, on parle bien de la zone euro, une zone géographique qui pourrait se réveiller.
Oui, d'autant plus que le sujet aujourd'hui, c'est beaucoup un sujet de valorisation. Parce que, notamment aux États-Unis, les fondamentaux sont beaux, la croissance est résiliente. Et donc, le principal sujet d'inquiétude, finalement, sur les actions américaines, ça va être leur valorisation, notamment par rapport à l'évolution des taux. Des taux plus élevés mettent en péril la valorisation des actions américaines qui est plus élevée. Et c'est un peu ce qu'on a connu dans cette phase de baisse. On parle beaucoup de la géopolitique, mais la hausse des taux, en fait, a pas mal de conséquences sur l'évolution des marchés. Mmh. À l'inverse, en Europe, c'est une région beaucoup plus value, donc moins chèrement valorisée, et qui en plus devrait bénéficier d'une baisse des taux qui n'aura pas lieu forcément tout de suite aux États-Unis. Donc ça devrait effectivement favoriser aussi la zone euro par rapport aux États-Unis.
Vous dites aux États-Unis, le problème, la question de la valorisation va finir par se manifester. Est-ce qu'elle va se manifester à l'occasion des publications donc qui accélèrent sérieusement, et notamment les publications des 7 magnifiques? Est-ce que le ressort des 7 magnifiques à l'occasion de ces publications pourrait s'avérer un peu cassé, quoi? UBS, par exemple, qui nous dit il faut se délester, en tout cas c'est le conseil d'UBS, de 6 des 7 magnifiques, parce que la base de comparaison devient trop exigeante et que, même si ce sont des valeurs de croissance, les effets de cycle vont finir par rattraper ces tech américaines.
Oui, alors j'ai lu cette note. Alors, effectivement, la difficulté pour la tech américaine, c'est que les valorisations sont élevées, donc elles souffrent un petit peu plus que d'autres de taux qui ne veulent pas baisser. On veut dire, c'est plutôt comme ça. Hein. C'est-à-dire que les taux ne baissent pas. Ce n'est pas qu'ils augmentent, mais ils restent élevés. Hein. 10 ans à 4,5, c'est quand même beaucoup. Et effectivement, donc, quand on regarde les 12 derniers mois, c'est vrai que des sociétés comme Nvidia, à chaque publication, comme ils étaient 30-40% au-dessus des attentes, ça finissait par l'emporter quand même. Là, le problème, c'est que dans la configuration de marché qu'on a, c'est si les résultats sont en ligne, ou en ligne plus, peut-être que ça suffira pas. Parce que comme les valorisations sont élevées, il faut qu'on aille toujours plus loin pour que ça justifie. Alors c'est vrai, quand on regarde individuellement, on a effectivement des Apple où ça freine un peu en Chine, c'est un petit peu moyen, donc... Toutes ne sont plus dans un mode d'accélération.
Oui. Tesla, c'est Apple évident. Sur les smartphones, il y a un an, ils avaient 20% des parts de marché. Un an plus tard, là, au mois de mars, ils n'avaient plus que 15%. Ils sont passés de 20 à 15% des parts de marché.
Notamment en Chine, ouais. Oui. Donc, effectivement, des sociétés type Apple ou autres, bon, Tesla, on sent aussi que ça ralentit, c'est plus compliqué. Les autres, je ne pense pas qu'elles vont démériter, mais au stade où on en est, il faudrait vraiment que ce soit très bon pour qu'il se passe vraiment quelque chose sur les cours. Alors, moins, bien entendu, que les taux commencent à baisser. Alors là, tout en profiterait. Mais je dirais, les publications telles quelles ne seront pas nécessairement suivi de fortes hausses des cours.
Et est-ce qu'on pourrait se rassurer en se disant, bon, si la tech américaine cette fois ne brille pas à l'occasion des publications, si les réactions de marché ne sont pas aussi favorables que par le passé, on verra, hein, on sait rien. Mm-hmm. Le reste de la cote parviendra à tirer son épingle du jeu et compensera la faiblesse de la tech américaine. Est-ce qu'on peut espérer ça de cette saison de publication? Que le reste de la cote, la majorité silencieuse de Wall Street, surperforme par rapport à la tech et compense la faiblesse de la tech?
Quand on dit surperformer, il faut avoir attention à de quoi l'on parle. Parce que finalement, Ce qui était assez flagrant la semaine dernière, c'est que les États-Unis ont plus baissé parce que la tech a plus baissé. Mais en réalité, en fin de semaine dernière, les États-Unis étaient, en gros, le S&P était à plus 4, plus 5 depuis le début de l'année. Mais si on enlève la tech, il était à zéro. Donc finalement, les actions américaines normales n'ont pas une performance très différente des actions européennes normales. Et donc, si on enlève la tech, on ne peut pas dire que les actions américaines n'ont pas fait grand-chose depuis 6 mois. Donc, dans un contexte où l'économie continue à aller de l'avant, où les résultats délivrent, etc., effectivement, toute cette partie de la cote devrait résister.
On entre dans la dernière ligne droite de cotation. Alain Dubrulle nous accompagne, Marie de Lessac également. Et le CAC 40, donc, à pile 20 minutes, progresse toujours. On tient la hausse aujourd'hui encore. Deuxième hausse de la semaine sur le CAC, plus 0,8%, 8105. On refranchit les 8100 points. En tête, Accor gagne 2,5%. On a aussi le secteur bancaire qui est bien orienté. BNP Paribas gagne 2,3%. Et puis un record, Publicis. Le titre Publicis aujourd'hui gagne un peu plus de 2,2%. C'est un nouveau plus historique cet après-midi pour le titre Publicis. Les replis, Renault, tiens, Renault qui recule un petit peu, moins 0,3%, parce qu'une petite faiblesse sur l'activité automobile, alors qui est compensée par l'activité financement de Renault, mais c'est sur l'automobile que le marché attend le groupe. Et dans la publication, donc une petite déception quant à cette activité qui est dans le cœur de métier de Renault. Le titre recule après un super début d'année quand même, et sur un an, Renault gagne toujours 40%. Hein, moins 0,3% cet après-midi, ça reste... plus que symbolique, on va le dire clairement. Et puis une valeur qui est, elle, suspendue de cotation. Ah, Voyageurs du Monde. Ouais, Voyageurs du Monde est suspendu de cotation. On en saura plus sans doute ce soir, 18h10. Notez bien sur BFM Business, il sera l'invité d'Adi Chevrillon et Good Evening Business, Jean-François Rial, le patron justement de Voyageurs du Monde, à suivre en direct tout à l'heure. Il expliquera sans doute pourquoi le titre, tout au long de cette séance, a été suspendu de cotation et il le reste là à l'approche de la clôture. Le CAC est donc en hausse, clôture à vivre dans quelques minutes. On appellera Aude Kersulec à la tour Euronext. Marie et Alain, quel secteur devrait, à vos yeux, le plus briller à l'occasion de cette saison de publication? On parlait un petit peu de la tech il y a un instant. On en parlera dans un instant, bien sûr, mais au-delà de la tech, quels sont les secteurs sur lesquels, Marie, vous misez le plus à l'occasion de cette saison?
Alors, ce qu'on voit sur les attentes de résultats de ce trimestre, c'est quand même qu'on a une dichotomie importante entre les valeurs en Europe, entre les valeurs cycliques et défensives. Aux États-Unis, on va dire plus entre les valeurs technologiques et le reste. En Europe, les valeurs cycliques sont attendues avec des croissances de résultats très faibles, très négatives. Mais même globalement, en fait, sur l'Europe, les croissances de résultats sur un an, donc par rapport au premier trimestre de l'année dernière, sont attendues en baisse aux alentours de 13%. Donc c'est vraiment des attentes faibles. Et notamment sur les valeurs cycliques. Alors, si on considère que la stabilisation des indicateurs avancés de l'économie, les PMI sont effectivement un indicateur sur l'économie, à ce moment-là, ces valeurs-là pourraient probablement surprendre dans leur publication de résultats. C'est vrai que...
Mais pas tout de suite, peut-être plus sur leurs perspectives que dans les publications du premier
trimestre. Voilà, exactement. Et c'est vraiment là-dessus qu'on va les attendre, parce que effectivement, dans les indicateurs qu'on a vus ce matin, en fait, l'indicateur des nouvelles commandes n'était pas très bon. Et c'est vraiment sur ces activités-là et sur les perspectives d'activité qu'on va attendre les dirigeants des entreprises européennes.
On a une super publi aujourd'hui. Novartis, dans la santé, gagne 2,4%. On sent qu'il y a des vents ascendants là, dans ce segment santé. C'est une thématique sur laquelle vous pensez qu'il faut... il y a des astres qui s'alignent pour effectivement pousser les investisseurs à renforcer encore cette thématique santé dans les portefeuilles.
La santé a été, globalement, au niveau mondial, assez pénalisée ces dernières années, notamment par un effet post-Covid. Les valeurs de santé ont mis très longtemps à digérer en fait le boom du Covid, et donc normalement effectivement on revient sur un environnement un peu plus normalisé pour ces valeurs là et des croissances de résultats qui devraient avoir lieu cette année. Donc comme elles ont été pénalisées même sur les marchés, c'est effectivement un secteur qu'on pourrait mettre en avant sur cette année. Ouais.
Ce soir, deux publications très attendues. Après la clôture de la Bourse de Paris, Kering va annoncer ses résultats. Et après la clôture de Wall Street, ce sera Tesla. Les deux fleurs fanées du marché, Kering et Tesla, qui déçoivent tant les investisseurs depuis quelques semaines et plus encore, depuis plus longtemps encore pour Kering. À vos yeux, c'est la question qu'on vous pose sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à notre fil X, BFM Bourse, notre fil LinkedIn aussi. À vos yeux, laquelle de ces deux fleurs fanées, Tesla et Kering, est amenée à continuer de décevoir, à décevoir finalement durablement, structurellement? Est-ce que c'est plutôt Tesla ou est-ce que c'est plutôt Kering? Vous êtes nombreux à voter. On rebondira d'ailleurs sur vos arguments dans un instant. Vous tous qui nous suivez, qui choisissez de voter sur nos réseaux sociaux. Vous, Alain, je vais vous poser cette question. Laquelle de ces deux fleurs fanées, Tesla et Kering, est amenée à continuer de décevoir dans la durée les marchés?
Bonne question. Je pense que Kering, en tout cas, va décevoir à court terme, très vraisemblablement. Mais je reste convaincu qu'à moyen terme, ils seront capables de redresser Gucci. Et que le segment du luxe reste un secteur porteur sur le moyen terme. Donc je suis plutôt inquiet à court moyen, mais pas à très long terme. Rappelons-nous que quand le management de Gucci a été changé en septembre de l'année dernière, et quand François-Henri Pinault a envoyé son fidèle Jean-François Palus à la tête, le marché a applaudi. Moi, à l'époque, j'avais plutôt conclu que s'ils changeaient management et s'ils envoyaient Jean-François Palus, c'est que ça allait en fait très mal. Et donc, effectivement, ça va mal. Et donc, quand on remet en marche une marque, ça prend beaucoup de temps. Donc, j'attends pas grand-chose ce soir, puisqu'ils ont déjà alerté sur les résultats. Oui. Mais je n'attends pas...
On n'est pas à l'abri d'une hausse, d'ailleurs. On n'est pas à l'abri d'une hausse.
On verra ce que j'en pense. Ils ont déjà warné, quelque part. Mais d'une certaine façon, le redressement de Gucci, qui sera clé dans la valorisation de Kering, prendra du temps. Il faut être patient. Donc pour
mais la meilleure des nouvelles, ce serait surtout que Kering devienne moins dépendant de Gucci. Est-ce que là-dessus, Kering est sur le bon chemin, là-dessus?
Oui et non, parce que de toute façon, pour que le cours se reprenne, il faut que Gucci se redresse. Et si Gucci se redresse, il pèsera toujours aussi lourd dans la balance. Donc voilà, rappelons que chez LVMH, qui fait 85 milliards de chiffre d'affaires, avec Vuitton à 20-25, Vuitton fait la moitié du résultat aussi. Donc si un jour il y avait un problème sur Vuitton, bon, passons. Mais voilà, en revanche sur Tesla, a priori, quand on regarde Tesla, il y a des choses qui sont très fortes chez eux, c'est notamment leur maîtrise de la data, leur maîtrise du logiciel. Et là-dessus, ils ont une avance considérable par rapport à la concurrence. Maintenant, en même temps, on a un marché de la voiture électrique qui se développe un peu moins rapidement que prévu. Alors, entre autres, parce que dans beaucoup de pays, les subventions sont à la baisse. Aussi parce que l'autonomie est insuffisante. Et puis parce que ils ont démarré par le haut de gamme et le milieu de gamme. Et aujourd'hui, le marché s'élargit vers l'entrée de gamme, où là, on a des véhicules chinois qui sont quand même beaucoup moins chers. Je ne dis pas de meilleure qualité, mais bon. Donc, ça pose un problème pour Tesla. Mais je serais quand même tenté de penser qu'eux aussi s'en sortiront, car ils ont une avance technologique réelle.
Enfin, d'accord, mais enfin, aujourd'hui, ils en sont réduits à devoir baisser leurs prix. Ils ont encore fait des annonces ce week-end, des baisses de prix en France, pour le coup, sur certains modèles Tesla.
Oui, ils l'ont fait l'année dernière.
On est d'accord.
Le marché ne monte pas suffisamment vite.
Effectivement. Alors voilà, c'est ça. Ils baissent leurs prix et pour autant, les livraisons continuent de baisser aussi. Là, c'est le parfait mauvais combo, en l'occurrence, pour Tesla. Vous vous dites quoi? Qu'on est sur le point bas? On est sur le point bas et qu'on va vers un rebond d'abord par effet de base et puis aussi parce que l'outil industriel et technologique de Tesla va permettre de réenchanter la valeur, même si elle reste assez chère. Le titre a perdu en un an plus de 40%.
Oui, au niveau de valorisation, y a encore de la place pour du de-rating. En revanche, sur l'activité, qui aurait cru il y a 5 ans qu'il ferait 1 million de véhicules, puis 2 millions de véhicules? Il commence à avoir des volumes qui les rapprochent des grands de ce monde, des Toyota qui sont à 10 millions. On n'y est pas encore, mais... Je pense qu'en revanche, ça, c'est pas inenvisageable.
Tesla, après la clôture de Wall Street ce soir, qui perd 43% depuis le 1er janvier, pour être précis, sur un an. Alors, sur un an, c'est là qu'on doit quand même savoir relativiser. Sur un an, le titre ne perd, entre guillemets, que 10%. Tesla. Mais depuis le 1er janvier, la baisse est quand même assez spectaculaire. Entre un General Motors qui relève ses prévisions pour la suite aujourd'hui, là, le titre à Wall Street gagne 5% à l'instant, General Motors, et un Tesla, qu'est-ce qu'il faut privilégier, Tesla ou GM?
À très court terme, je pense plutôt GM, parce que faut rappeler qu'à un moment, Tesla avait une capitalisation boursière qui était supérieure à toute l'industrie réunie. Je pense d'ailleurs que c'est probablement toujours le cas. Mais alors que le véhicule électrique pâtit un petit peu, probablement, c'est du court terme, mais pour l'instant il est un peu moins dynamique, il y a de la place pour que les autres acteurs du secteur aient une petite recovery.
On vous rappelle, dans quelques minutes, la clôture qu'on suivra bien sûr en direct. Et à Wall Street, la tendance toujours favorable. Les trois indices US sont en ce moment dans le vert. Marie, est-ce que finalement, pour savoir où iront les actions, alors bien sûr, il faut regarder les résultats des entreprises, et puis là, on va de plus en plus en parler, parce qu'on entre dans le cœur de cette saison de publication, mais est-ce que finalement, la big picture, c'est pas le marché obligataire qui l'envoie? Est-ce que vous-même, pour anticiper le potentiel des marchés actions, vous continuez de regarder plus en plus ce marché obligataire?
On regarde le marché, le niveau des taux. Alors, on regarde plus l'évolution peut-être des taux des banques centrales que le marché obligataire en lui-même. Il y a évidemment un lien très fort entre les deux. Plus pour...
Donc vous n'appréciez pas le potentiel du marché action au regard de l'attrait des obligations de marché qui peuvent attirer de la collecte aux dépens de ce marché action en l'occurrence.
Les obligations de marché, je pense, peuvent plutôt attirer de la collecte. Ça sera probablement aux dépens des investissements monétaires quand on rentrera dans les vraiment dans les attentes de baisse des taux des banques centrales.
Vous misez beaucoup justement sur une décollecte du monétaire qui viendrait profiter au marché obligataire, mais aussi au marché actions en deuxième partie d'année. C'est dans vos scénarios?
Alors, au marché actions, en fait, historiquement, c'est pas pour ça que ça sera le cas cette année. Historiquement, le marché monétaire décollecte pour réinvestir sur les actions après la phase de baisse des taux des banques centrales. Là, on n'a pas commencé la phase de baisse des taux des banques centrales. Ce qu'on a vu, en revanche, c'est effectivement des souscriptions très, très importantes sur les OPCVM monétaires. Donc là, on a des collectes et des encours très, très importants. Et effectivement, quand on verra les baisses des taux des banques centrales arriver, ça se reportera probablement en premier lieu sur les obligations pour essayer de figer les rendements obligataires qu'on a actuellement et qui seront amenés à baisser avec les baisses des taux des banques centrales.